ne pas compromettre leur développement. La clinique d'optométrie des Îles, membre OptoRéseau, les professionnels à voir pour vos yeux.
Prenez note qu'à la fin du trait prolongé, il sera exactement midi. Un rappel de la clinique d'optométrie des Îles.
Ici Francis Deveau de l'émission Purement Mavino. Vous écoutez CFIM, la radio des Îles, le son de la mer.
Ici François Delisle au micro et vous êtes à l'écoute de l'émission L'épreuve des faits. Ce midi à l'émission, on a une table ronde spéciale sur la passe Archipel qui entrera en vigueur le 1er mai prochain. Nos invités pour en parler, qui se joindront à nous dans un instant, Antonin Valiquette, le maire de la municipalité des Îles de la Madeleine depuis mars 2023 et le président de la communauté maritime, le professeur au département d'études urbaines et touristiques à l'Université du Québec à Montréal, M. Dominique Lapointe, Michel Bonato, le directeur du tourisme Île de la Madeleine, et Mme France Groux, la présidente de l'Association touristique régionale et propriétaire du Club de voyage des Îles. Je serai également accompagné pour animer cette émission par le journaliste Raphaël Lapierre, qui est coordonnateur de la salle de nouvelles à CFIM avec Laurence Damioul. Ensemble, nous tenterons de faire le tour de la question, de présenter les différents points de vue autour de cette passe Archipel qui a suscité les passions parfois sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle comment va se dérouler la table ronde. La table ronde, dans un premier bloc qui est d'une durée d'une heure, sera divisée en quatre blocs. Dans le premier bloc, nous examinerons les raisons motivant la mise en place de la passe Archipel. Ce sera l'occasion de résumer ce qui a amené la municipalité à mettre en place cette mesure, mais aussi de voir si ces justifications tiennent la route en examinant ce qui se fait ailleurs pour gérer la chandage touristique saisonnier. Dans le deuxième bloc, nous nous pencherons sur les impacts possibles de la passe Archipel sur l'industrie touristique et sur le rôle de levier de développement du secteur que la municipalité espère lui voir jouer à travers le Fonds de gestion durable du territoire. Dans le troisième bloc, nous discuterons de l'application de la passe Archipel afin de mieux comprendre comment cela changera le fait de voyager pour les touristes, les travailleurs, les visiteurs, les résidents et la diaspora madelinienne. Mais aussi, nous discuterons des inquiétudes liées à ce nouveau contrôle de la circulation sur le territoire. Et finalement, dans le quatrième bloc, nous reviendrons sur les inquiétudes et les commentaires que les auditeurs nous ont fait parvenir, en plus d'approfondir certaines questions traitées tout au long de la table ronde. Et finalement, afin d'assurer un bon fonctionnement de la table ronde, je vous invite, mesdames et messieurs les invités, à demeurer le plus concis et clair possible dans vos réponses. Le journaliste Raphaël Lapierre vous posera des questions et je pourrai vous interrompre afin de vous poser des questions de précision ou d'inviter un autre invité à réagir. De plus, tâchez de limiter vos réponses à la question posée. Si vous jugez que vous avez davantage de précision à donner, je vous rappelle que nous pourrons y revenir lors du dernier bloc de la table ronde. Mais d'abord, avant de passer au vif du sujet, un bref rappel de ce qu'est la passe Archipel et comment elle sera appliquée. La passe Archipel est une passe touristique obligatoire pour les visiteurs non résidents. À partir du 1er mai 2024, toute personne de 13 ans et plus qui effectue un séjour de plus de 24 heures sur l'archipel entre le 1er mai et le 14 octobre devra payer la passe Archipel au montant de 30 $ plus taxes par personne pour un maximum de 100 $ plus taxes par famille. Le paiement de la passe doit être effectué avant la fin du séjour et sera possible à même une plateforme de paiement sécurisée. Les sommes ainsi recueillies seront versées au Fonds de gestion durable du territoire. Selon la municipalité des Îles, comme le territoire n'exige pas d'accès payant à ces infrastructures touristiques, ce fonds soutient la préservation de l'environnement naturel de l'archipel et la disponibilité d'infrastructures récréotouristiques adéquates. Il permet donc à la destination de continuer d'accueillir les visiteurs année après année en leur offrant les services adéquats. À qui s'applique cette mesure? À toute personne n'ayant pas d'adresse permanente aux îles, visitant le territoire pour plus de 24 heures entre le 1er mai et le 14 octobre inclusivement. Elle est donc indifférente à l'origine des visiteurs. Simples touristes ou madelinos d'origine ne résidant plus sur l'archipel devront payer. Les résidents des îles et les propriétaires de résidences secondaires seront exemptés de payer la passe Archipel. Comment les visiteurs devront-ils s'acquitter de la passe Archipel? Eh bien, le visiteur acquittera la passe Archipel via une plateforme de paiement sécurisée qui va générer un code QR de confirmation qui sera validé à la sortie du territoire. Le visiteur sera informé de l'obligation de payer la passe Archipel par différents moyens lors de son séjour et même avant son arrivée. Il recevra son code QR par courriel et le visiteur pourra donc acquitter la passe Archipel au moment qui lui convient entre sa décision de venir aux îles et le jour de son départ du territoire madelino. Qu'arrivera-t-il si quelqu'un n'a pas payé sa passe Archipel au moment de quitter le territoire? Eh bien, les gens seront d'abord invités à payer au moment du départ lors du contact avec l'agent de vérification. Si quelqu'un refuse de la payer, il s'expose à être passible d'une amende. Notons que la municipalité a mis en place une foire aux questions disponible au www.munil.ca/passe-archipel.
L'événement Formule Gagnante, c'est l'événement qui vous met au volant d'une valeur gagnante Honda, comme le super populaire Honda CR-V. Habitacle spacieux et rempli de caractéristiques, tenue de route raffinée et la qualité fiabilité Honda. Le CR-V est en location à partir de 114$ par semaine avec 0$ en acompte. Ou encore choisissez le financement à l'achat à partir de 3,49%. L'événement Formule Gagnante chez Leudesport, votre concessionnaire Honda. Si vous magasinez pour une valeur gagnante, choisissez notre gagnant, le Honda CR-V. Ce mardi, 19h30, c'est un rendez-vous à la salle communautaire de Fatima pour tous les amateurs de bingo. Le bingo du Centre des loisirs de Fatima peut vous rapporter gros avec ses 2 800$ en prix, dont un gros lot de 1 000$ pour la carte pleine. Alors, c'est à vous de jouer. Bonne chance et bienvenue au bingo à la salle communautaire de Fatima ce mardi dès 19h30.
La qualité de vie de nos communautés est intimement liée à l'implication de ses concitoyens. Devant la croissance des besoins actuels, notre collectivité régionale a davantage besoin de partage et de soutien financier. La philanthropie est à la portée de tous et de nombreux outils existent afin de faciliter des gestes d'entraide et de donation sans nuire à votre patrimoine financier. La Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-les-Îles, en collaboration avec Centraide, sont heureux de vous inviter à un séminaire gratuit sur la philanthropie qui aura lieu le 9 mai prochain à Cap-aux-Meules. Vous pouvez vous inscrire sur le site web de la Fondation sous l'onglet « Séminaire ».
Alors, bonjour à tous ceux qui, et à toutes celles qui nous écoutent. Bonjour, Monsieur le maire Antonin Valiquette.
Bonjour.
Bonjour également à Monsieur Dominique Lapointe de l'UQAM.
Bonjour.
Bonjour aussi à Monsieur Michel Bonato.
Bonjour.
Pardon, faudrait mieux si j'ouvrais votre micro, Monsieur Bonato. Alors bonjour de nouveau.
Je dois dire bonjour là.
Bien oui.
Alors bonjour.
Bonjour Madame Grou.
Bonjour.
Et bonjour Raphaël.
Bonjour tout le monde.
Alors, je vous rappelle qu'afin d'assurer le bon déroulement de la table ronde, je vous invite à être concis dans vos réponses et claires. Raphaël va vous poser des questions et je pourrai vous interrompre afin de poser des questions de précision et d'inviter quelqu'un d'autre à réagir. Tâchez de limiter vos réponses à la question posée. Nous allons tâcher de faire le tour de la question et nous pourrons revenir à ce que vous jugez nécessaire lors du dernier segment, le cas échéant. Pour ce premier segment, on cherche à examiner les raisons qui motivent la mise en place de la passe Archipel. À toi, Raphaël.
Oui, bien, commençons justement sur cette question-là. Il y a été beaucoup question, évidemment, de l'impact de la fréquentation touristique sur les infrastructures municipales, notamment la gestion des déchets. Mais donc, peut-être nous résumer, là, M. Valiquette, pour commencer, pourquoi on a mis en place la passe Archipel aux îles de la Madeleine? Quelles sont les raisons qui expliquent là, d'avoir mis en place donc cette nouvelle redevance pour l'industrie touristique, pour les gens, en fait, qui fréquentent les îles de la Madeleine?
Ben, vous savez, la passe, le concept de redevance touristique aux îles de la Madeleine, ça fait quand même 20 ans qu'on en parle. Parce que, veut pas, une population de 13 000 habitants qui supporte la venue, et qui est très bienvenue, là, des visiteurs qui viennent, qui nous donnent le privilège de venir nous voir en vacances ou pour nous visiter pour toute autre raison aux îles de la Madeleine. Par contre, veut pas, dans la réalité, ça amène des impacts au niveau des infrastructures et des services publics. Et la municipalité a un rôle, doit être là comme partenaire du développement économique de notre industrie touristique en offrant des services et des infrastructures publiques de qualité à la hauteur des attentes de tout le monde. Donc, c'est une question d'avoir les moyens de nos ambitions là-dedans parce que, veut pas, avec la fréquence des visiteurs, à un moment donné, la capacité des citoyens d'assumer les dépenses mises sur les infrastructures et sur les services publics, on est rendu à un point où il faut absolument, comme bien d'autres villes du Québec d'ailleurs, diversifier nos revenus. C'est pour ça qu'on a fait ça.
Monsieur Valiquette, vous parlez justement d'impact sur les infrastructures municipales. On parle de l'impact sur quoi? Concrètement, est-ce qu'on parle de davantage de camions de déchets? Est-ce qu'on parle davantage de fréquences? De quoi on parle lorsqu'on parle de cet impact de l'achalandage touristique?
OK. Si on parle juste de la gestion des matières résiduelles, d'un point de vue d'un point de vue rapide, vous pouvez vous imaginer tout de suite, si on est 13 000 habitants aux îles de la Madeleine et qu'on a 60 000 visiteurs qui passent entre mai et juin, ben les volumes augmentent. Les volumes de traitement de déchets de déchets à traiter augmentent. Donc c'est déjà là, on a une pression supplémentaire. Ça c'est correct. Après ça, on a toutes les demandes de visiteurs et de citoyens madelinaux qui nous disent: là, on manque d'infrastructures, on manque de toilettes, de poubelles publiques, tel ou tel endroit, tel ou tel site public. Faudrait, celles qu'on a sont tout le temps pleines, faudrait augmenter le nombre de collectes. Ben, tout ça a un prix, là, à un moment donné.
Est-ce que, M. Valiquette, les retombées économiques du tourisme, dont on pourrait très bien parler, là, les gens de Tourisme de la Madeleine qui sont là ici, est-ce que c'est pas déjà censé venir couvrir ces coûts-là? Est-ce que finalement, on n'est pas en train de presser peut-être un petit peu le citron, là?
Mm-hmm. C'est une bonne question. En fait, en partie, oui. Les commerces touristiques, les visiteurs dépensent dans nos commerces. Ensuite de ça, effectivement, il y a des taxes foncières sur les commerces des îles de la Madeleine, mais la municipalité ne taxe pas les commerces en fonction de l'achalandage touristique. On taxe tel que prévu par la loi sur l'évaluation foncière. Donc, lorsque le tourisme augmente, là, à un moment donné, il y a un point de rupture où est-ce que si on voulait rattraper le besoin finalement avec des nouveaux revenus et qu'on mettait tout ça sur la taxation, là, ça n'aurait plus de bon sens. Là. C'est pas ce qu'on souhaite faire au Conseil, justement. Le pourquoi de la passe archipel, c'est qu'on a trouvé, dans cette façon-là, un moyen légal, prévu par la loi sur les cités et villes, dans le cadre d'une redevance réglementaire, d'aller chercher des nouveaux revenus pour améliorer nos infrastructures, nos services publics, pour aider notre industrie touristique, sans alourdir le fardeau fiscal des citoyens. Donc, c'est pour ça qu'on a fait la redevance. Là. C'est ça l'objectif. Et c'est cet objectif-là qu'on s'est rappelé au fur et à mesure qu'on travaillait sur ce règlement-là. Parce qu'à bien des endroits, on a dit: ouf, c'est de l'ouvrage, c'est gros. Est-ce qu'on continue? On s'est dit: oui, on continue. L'objectif est bon, l'objectif est noble. Puis il faut qu'on fasse ça pour nos citoyens et nos citoyennes.
Merci, M. Valiquette. M. Lapointe, dites-moi, est-ce que ce genre de mesure qui a été mis en place, est-ce que c'est le genre de mesure qui est considéré ailleurs, mise en place ailleurs dans l'industrie touristique? Et quel genre d'impact est-ce que ça a sur l'achalandage touristique au niveau de...
Je pense que vous allez déjà un peu... Je vais aller un peu avant. Hein? Donc, l'enjeu de comment on capte une partie de la rente touristique, hein, donc des revenus touristiques, pour supporter, je dirais, les infrastructures publiques, voire, on peut même aller dire, le bien commun, c'est un enjeu présentement très, très aigu partout dans le monde où on a ce qu'on appelle du tourisme de haute intensité. Hein? Donc, est-ce que tout à coup, on a des périodes où est-ce qu'on a une fréquentation avec une intensité, là, enviable, si on parle de développement touristique, mais qu'on peut dire là qu'il y a une pression. Faut pas oublier qu'à peu près partout en Occident, les infrastructures publiques sont supportées par la taxation municipale, mais aussi par les États, hein, donc provincial ou fédéral, mais le support aux infrastructures publiques des États fédéral, provincial, là, c'est un peu la même chose en Europe, et pour les habitants, le nombre d'habitants permanents. Hein, et donc, quand tout à coup, la population devient 2, 3, 4 fois celle des habitants permanents pendant certaines périodes, la pression sur les infrastructures de traitement de l'eau, d'approvisionnement en eau, de gestion de matières résiduelles, les espaces publics, la voie publique se trouvent à être, à être sous pression, mais on peut pas les justifier une surdimension pour les visiteurs à partir des programmes là de support public. Donc cette question de dire comment on capte cette rente-là, elle est, un peu partout là. Venise, ça casse la tête là-dessus depuis plusieurs années. Donc en 2022, ils étaient supposés là, l'implanter, ils ont reculé. Là, ils vont l'implanter pour les week-ends là, cette année, ça aussi c'est à voir. Et il y a différentes manières, là, je dirais. Les deux principales formes de taxation pour récupérer une partie de la rente touristique pour les infrastructures publiques vont être la taxation sur les nuitées, mais au Québec, on a décidé de l'attribuer à autre chose, cette taxation-là. Et souvent, l'autre modalité, ça va être la taxation des véhicules.
Bien, justement, M. Lapointe, ou peut-être Tourisme de la Madeleine, cette taxation-là sur les nuitées, peut-être de réexpliquer aux gens comment elle est perçue et à quoi elle sert, cette taxation-là liée à l'hébergement touristique.
Ben Michel pourra me corriger là, mais la taxe d'hébergement là, parce que ça l'a bougé dans les dernières années. En gros, elle est collectée, elle est envoyée à Québec, qui elle en renvoie une partie dans les associations touristiques régionales, principalement pour faire de la promotion et de la structuration de l'offre. Et l'autre partie, elle sert justement au ministère là pour financer l'intelligence d'affaires et d'autres programmes là du ministère du Tourisme, qui est un ministère à vocation de développement économique. Donc les enjeux d'aménagement du territoire, les enjeux d'infrastructures publiques ne sont pas couverts là, par les programmes associés à la taxe d'hébergement.
Très bien, merci, M. Lapointe.
Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Là.
Très bien, merci, M. Lapointe. M. Bonato, Mme France-Groux, moi, je me demande quand même, parce que l'année passée, d'ailleurs, la TR a reçu un prix pour cette campagne, la campagne « Aux îles, je m'engage ». Est-ce que vous trouvez, par exemple, que cette mesure de la municipalité s'inscrit dans le même esprit?
Oui, absolument. On a, au niveau de l'association touristique, à la fois dans notre vision et dans notre mission, je pense que dans notre mission, nous avons quatre fois le mot développement durable, et dans notre mission également. Donc, tout ce qui concourt à protection du milieu, à protéger la fragilité de la destination, s'inscrit un petit peu en partenariat de ce que nous faisons. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu notre stratégie en tourisme durable, nous avons une des orientations qui décrit une destination sculptée par le climat et sensible au climat. Donc c'est pour ça que cette vision durable est recoupée justement avec ces changements climatiques que nous vivons, avec avec toutes ces actions qui concourent à l'émission des gaz à effet de serre. Donc là, on peut faire des liens. Oui, donc on est en partenariat, on est dans une vision commune.
Et peut-être pour mettre fin à ce premier bloc là qui déjà commence à s'étirer, peut-être, M. Valiquette, des explications au niveau du fonds de gestion durable du territoire. Donc, on vient de parler de la question, évidemment, de la durabilité du tourisme. Donc, comment va fonctionner ce fonds-là? Comment on va répartir donc les revenus de la taxe de la passe archipel, donc de la nouvelle taxation, et comment ça va percoler finalement là, à travers ce fonds-là?
Tout d'abord, je voudrais faire une distinction assez importante entre taxation et redevance, parce que la municipalité pourrait pas faire la passe archipel avec son pouvoir de taxation. Elle peut le faire grâce à un pouvoir de redevance réglementaire autorisé par le gouvernement du Québec depuis 2017 dans la loi sur les cités et villes. Et ce même règlement-là encadre légalement justement la disposition, la création d'un fonds. Nous autres, on l'appelle fonds de gestion durable du territoire, mais dans la loi, ce qui est écrit, c'est que une redevance réglementaire doit constituer un régime de réglementation qui fait en sorte que les gens qui payent pour alimenter ce fonds-là doivent être en mesure de retirer les bénéfices. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, ce qu'on fait, c'est que la passe archipel, tous les revenus de la passe archipel s'en vont dans le fonds de gestion durable du territoire et la municipalité ne peut dépenser que des sommes pour la fonctionnalité de la passe archipel. Là.
Pour les services qui vont servir aux gens qui paient.
Ben, exact. On est obligé par la loi de respecter ça. Donc, gestion des matières résiduelles, on pense par exemple à la pression puis aux demandes qu'on a pour la gestion des matières résiduelles et les opérations supplémentaires sur les sites récréotouristiques, sur les sites publics de la municipalité particulièrement. On a aussi l'exploitation d'un parc régional. Et ça, j'espère qu'on va y revenir dans le courant de l'émission parce que j'ai pu voir et entendre des commentaires cette semaine que ça va être très important de rectifier là, en matière de, en ce qui concerne le parc régional. Là. Il n'y a jamais été question de limiter les accès ou charger ou contrôler l'identité ou charger les gens.
C'est bien quelque chose sur lequel on va revenir plus tard dans le quatrième bloc, M. Valiquette.
Merci beaucoup.
Pour être certain...
Et on parle des infrastructures récréotouristiques aussi comme troisième point.
Exemple, l'accès aux plages, les poubelles sur les sites. On parle de quoi d'autre, par exemple, comme infrastructure récréotouristique?
Ben écoutez, mettre de la gravelle puis passer le grader pour aller puis entretenir le stationnement du Corfu, de la plage au Corfu, aller à tout le site de la Dune du Sud, l'Anse-aux-Baleiniers.
Les chemins d'accès aux plages, etc. finalement.
Chemins d'accès aux plages, des toilettes publiques. Il y a un paquet d'infrastructures récréotouristiques qu'on a, qu'on doit entretenir. Puis dans le futur, d'autres qu'on nous demande de mettre en place qui vont être... où on pourra regarder ça beaucoup plus sérieusement si on a des revenus récurrents à chaque année de la passe archipel là, pour les Madelinos.
Et dernière précision que je trouve importante, M. Valiquette a amené, là, pour le partage donc de l'argent qu'il va avoir dans le fonds de gestion durable du territoire, quelle part va à la communauté maritime, la municipalité des îles, comment on départage la population de Grosse-Île là-dedans, finalement, comment ça va s'appliquer là, concrètement au niveau des fonds?
Ben, en fait, par règlement, les fonds vont être utilisés 50% pour les infrastructures récréotouristiques du côté de la municipalité des îles et l'autre 50% va à communauté maritime des îles. Donc, c'est là-dedans qu'on retrouve gestion des matières résiduelles et l'exploitation d'un parc régional. Donc là, après ça, il n'y a pas de... La municipalité de Grosse-Île, les gens de Grosse-Île, même s'ils sont dans une autre municipalité, profitent de l'ensemble de tout ça, là, comme l'ensemble des habitants des îles de la Madeleine. Vous allez, tout le monde de Grosse-Île a le droit d'aller, peut aller quand il veut à la plage, une plage des îles de la Madeleine en utilisant les chemins d'accès de la municipalité des îles. Il n'y a pas de problème. Là.
Excellent. Très bien, M. Valiquette. Alors, on prend une courte pause et on revient avec un deuxième bloc où on parle des effets de la passe archipel sur l'industrie touristique.
Ce mardi, à De Long en Large, nous allons faire le tour de la planète une autre fois pour vérifier si tout le monde fait bien sa job. Mais surtout, on se donne rendez-vous avec Reynald Deraspe dans la rubrique Le Monde de par chez nous.
Ah, le sens-tu, mon chum? Ça sent le printemps qui s'en vient.
Ouais, pis si je veux que ça sente le gazon coupé, je suis mieux de m'équiper à neuf.
Hein? Comment ça?
C'est qu'avec l'été qu'on a eu l'an dernier, j'ai passé à travers de ma vieille tondeuse puis de mon vieux tracteur.
Bah, fais comme moi, va chez Marcille. L'autre jour, je suis allé pis tu devrais avoir tout ce qu'ils ont su. Des tondeuses, des tracteurs, des motoculteurs, tout ça dans du Cobb-Cadet, Husqvarna, Tri-Built. Hey, ils ont même des tondeuses 4x4 pis des tracteurs à différentiel barré, à rayon de braquage zéro et même à volant. Je te dis que tu seras pas chat avec ceux-là. Ça, mais tu cours comme ça.
Bon, le temps de te parler, je vais chez Marcille m'équiper.
Oui, ben tant qu'à y aller, informe-toi de leur promotion sur les tracteurs Husqvarna qui se termine le 27 avril. Vous aussi, allez chez Marcille Équipement, 17 Chemin des Godets à Lavernière, pour passer un été en toute tranquillité.
Alors, vous êtes toujours à l'écoute de cette table ronde autour de la passe archipel. Dans ce deuxième bloc, nous nous pencherons sur les impacts possibles de la passe archipel sur l'industrie touristique et le rôle de levier de développement du secteur que la municipalité espère lui voir jouer à travers le Fonds de gestion durable du territoire. À toi, Raphaël.
Donc, je vais y aller avec une question très générale qui a été envoyée, en fait, par des citoyens qui nous ont contactés, là, notamment. Mais est-ce que ça a été évalué, justement, cette question-là, de l'effet potentiel d'une mesure comme ça sur la fréquence? Puis je l'élargirais peut-être aussi. Quelles sont les attentes là, devant les réactions que ça a créé, l'annonce de tout ça, par rapport à la prochaine saison touristique?
En fait, on est obligé de dire qu'on est un, on va dire, un brin content de sentir qu'il peut y avoir quasiment une inquiétude au niveau du nombre de visiteurs sur les îles.
Ça change du passé,
oui. Ça change un petit peu du passé, effectivement. Dans les dernières années, on a entendu un peu l'inverse. Donc, de savoir qu'il y a une petite inquiétude, ben oui, on est content de l'entendre. Donc, est-ce que nous, on a une grande inquiétude envers ça, de dire est-ce qu'il va avoir un grand effet sur la fréquentation? On a été zioté un petit peu, nous autres aussi, autour. Donc, il y avait une étude qu'on a regardée dans l'ONU World Tourism, donc qui est une association qui avait étudié dans les différents endroits où il y avait des redevances. Est-ce que la fréquentation, le tourisme avait diminué? Et ce n'est que marginal, ce n'est que très minime. Donc, les visiteurs sont encore là en bon nombre. Et donc, on se ramène à dire qu'on n'est pas le seul endroit où il y a des redevances touristiques. Donc, je suis obligée de mentionner que si on a une inquiétude par rapport à une prochaine ou les prochaines saisons touristiques, ben c'est davantage en lien avec l'inflation qu'il y a, des fois, les montants qui sont mis de côté pour les vacances diminuent, des prix d'avion qui peuvent être en hausse un petit peu aussi, un programme Explore Québec qui n'est pas là cette année. Donc, pour ce qui est du 30 $, est-ce que vraiment il y a une inquiétude? Non.
Monsieur Lapointe, est-ce que justement ce genre d'inquiétude, ce genre de débat s'est vu ailleurs par rapport à des restrictions, je pense, à des endroits qui sont parfois... sans que ce soit une redevance, qui sont accessibles seulement contre paiement, par exemple les Porquerolles en France, là, est-ce que ce genre de débat sur l'accès engendre des inquiétudes ailleurs?
Bien, tu sais, je pense pas vraiment. Je vous dirais... ça l'engendre certains... tu sais, la question des contrôles de la mobilité, bon, présentement, bon, si vous allez lire, là, il y a comme tout un débat, là. Les Britanniques sont fâchés contre l'Espagne qui leur demande, là, certaines conditions pour rentrer au pays, vu qu'ils ne sont plus dans l'Europe. Mais, tu sais... contrôler les flux touristiques par le marché, c'est une stratégie qui est vieille comme le tourisme, là. Je regardais les premières taxes touristiques en Lettonie, c'est v'là 130 ans, tu sais.
D'accord, donc c'est pas nécessairement quelque chose de... c'est quelque chose dont on a pu mesurer l'impact, finalement.
Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que l'élasticité du marché touristique est pas la même que dans la consommation du quotidien. Tu sais, payer 50 piastres pour un dîner au resto un mardi quand tu retournes travailler après, ça fait mal au cœur, puis tu dis je vais amener mon lunch, mais en vacances, ce 50 piastres là, s'il y a une expérience, tu sais, fait que dans un marché comme les îles de la Madeleine, je pense pas que le 30 $ ait un impact majeur. Par contre, ce qui est important, puis je pense que là-dessus, moi, ce que je vois, puis après ça, la preuve va se faire dans le temps, mais la manière dont c'est clair où les fonds vont aller, ça, pour moi, c'est quelque chose de rassurant, parce que si on se met à avoir des redevances, mais que les visiteurs, puis les travailleurs du monde du tourisme, les entrepreneurs touristiques, ne voient pas comment cet argent-là sert à améliorer le produit, à améliorer les conditions dans lesquelles eux font leurs prestations touristiques. Là, ça peut amener avec le temps un certain déclin parce que tout à coup, il se met à avoir une perception que la destination est dispendieuse, mais que le produit s'améliore pas, tu sais.
Donc, c'est
ça. Reste ou stagne. Mais tu sais, pour l'instant, moi, quand je vois qu'il y a un fonds dédié, entre autres à la protection du territoire, là, protection entre guillemets, là, dans le sens de dire la qualité territoriale, parce que c'est ça que les gens consomment quand ils vont aux îles, ben ça, pour moi, tu sais, ça m'apparaît positif.
Très bien, Monsieur Lapointe. Monsieur Bonato, justement, parlant de la qualité de la destination, tout ça, l'ATR avait travaillé déjà sur le lien entre visiteurs et visités. Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose, cette mesure, qui pourrait avoir un impact nuisible sur la relation visiteur-visité en faisant que les gens se sentent moins accueillis sur la réputation de la destination?
Non, absolument pas. Écoutez, là, il y a quand même, je pense que ma présidente le mentionnait, une étude quand même sur le tourisme qui a été réalisée par l'ONU qui a étudié un petit peu tous les systèmes de taxations qui ont été pu mettre en place. On ne dirait pas ça que c'est négligeable. Okay? Donc, il faut savoir quand même que l'association touristique, on avait travaillé en 2004 sur une telle mesure, ce qu'on appelait une écotaxe. Donc, ça fait longtemps, écoutez, qu'on a un peu cette volonté de voir une industrie touristique progresser. Il faut savoir quand même que le tourisme, vous le savez autant que moi, c'est pas grave de savoir si c'est la première ou la deuxième industrie, mais c'est une industrie qui est très, très importante. Et dans les prochaines années, on va devoir investir, on va devoir innover pour rester compétitif. Et investir, on l'a vu, dans les infrastructures, puis Dieu sait, que ce soit en sentiers pédestres, en routes vélocyclables. Écoutez, les besoins sont immenses et on ne pense pas que ce soit sur les taxes des 13 000 résidents qu'on va pouvoir financer cette industrie et être compétitif. Donc après, les visiteurs, non. Écoutez, on l'a vu actuellement. Là, vous savez, nous, ce qui nous fait peur, c'est un billet à 500 $, s'il n'est plus disponible dans le programme PAR, on passe à 1 200 $ du billet.
On a davantage d'impact que 30 $.
Voilà. Est-ce que ça, alors, on pense pas, on le verra. Puis écoutez, on vous invite au mois de novembre pour faire le constat de ce qui sera fait là. Mais la situation économique, comme disait ma présidente, nous inquiète beaucoup plus que ce 30 $.
D'accord. Et dites-moi, mais comment est-ce que la TR a une stratégie pour répondre à la grogne, la colère sur les réseaux sociaux? Et ensuite, j'ai une question pour vous, Monsieur Valiquette.
Ben écoutez, la grogne, nous avons envoyé une infolettre à 109 000 visiteurs qui ont l'habitude, qui sont abonnés à la destination. Et très honnêtement, nous avons eu, je pense, 19 commentaires négatifs. Donc, si vous avez 19 000 divisé par 109 000, on va arriver à 0,00000 là. Actuellement, il y a un certain courant aux îles de la Madeleine qui fait en sorte qu'on peut se poser des questions. Est-ce que ça va interférer un petit peu sur la vision des visiteurs? Mais on ne sent pas on a eu des courriels de gens qui disaient, on est vraiment content d'aider la destination, puis d'aider, de compenser un petit peu la pression que le tourisme peut mettre.
Merci.
Donc, non, on n'a pas vraiment d'inquiétude à ce niveau-là.
Merci. Monsieur Valiquette, lorsqu'on parle de cette mise en place, quand peut-on attendre des retombées de cette redevance touristique? Quand est-ce qu'on peut voir justement l'effet qu'elle aura sur les services récréotouristiques, etc., aux îles?
Ben écoutez, l'avenir nous le dira, puis on va le voir à l'usage, là, parce que là, c'est la première fois qu'on essaye une chose comme ça. J'aurais de la misère à vous répondre exactement. Là, on va voir qu'est-ce qu'on va récolter, qu'est-ce que ça va donner justement comme montant la première année. On va voir tous les enjeux opérationnels que ça amène, parce que là, à un moment donné, la préparation théorique, là, c'est bien beau, mais il faut qu'on se lance et qu'on fasse des opérations pour réellement voir les retombées, réellement voir les enjeux et les défis sur le terrain qui nous attendent et qui nous... auxquels il faut faire face. Moi, d'avoir des questionnements sur la question de l'identité pour les Madelinos, de montrer une pièce d'identité pour éviter de payer une redevance, pour éviter de payer quelque chose, finalement. Je ne m'attendais pas à ce que ça fasse une réaction comme celle-là. Donc, écoutez, on marche en terrain un peu inconnu, en grande partie même, et il va falloir voir à l'usage comment ça va fonctionner. Par contre, au niveau de la gestion des finances et des retombées, ben écoutez, les retombées qu'on a, on les met toutes dans le fonds de gestion durable du territoire. Après ça, on est capable au budget de dire, on a récolté dans la dernière année tel montant, on va l'année prochaine investir dans telle initiative pour le budget de la prochaine année. Puis après ça, on fait l'année et aux états financiers, on va présenter, on va dire, vous souvenez-vous, l'année passée, on vous a dit qu'on allait faire ça avec cet argent-là? Voici ce qu'on a fait au cours des derniers mois.
Donc, très bien. Donc, c'est lors des états financiers de 2025 qu'on pourra bien voir l'impact de cette mesure, si je vous comprends bien. Raphaël, une question?
Au niveau, de la fréquentation touristique, on voit quand même qu'il y a d'autres facteurs d'inquiétude qui semblent plus importants là, du côté de tourisme et de la Madeleine, notamment, mais est-ce que la réaction qu'on voit aller sur les médias sociaux, notamment, que ce soit sur des pages municipales, groupes Facebook, puis aussi jusqu'à tout récemment là, dans le journal La Presse, Patrick Lagacé qui est allé d'une chronique ce matin quand même, disons, assez critique là, envers la mesure, on va le dire comme ça. Est-ce que ça pourrait pas éventuellement avoir une espèce d'effet de dégonfler finalement la destination dans l'œil du public qui est extérieur un petit peu au débat qu'on est en train d'avoir en ce moment?
Ben, en fait, c'est ce que je peux dire, c'est pas nécessairement ce qui est véhiculé sur les médias sociaux, mais c'est la on dirait, un peu la grogne entre nous, moi qui me fais peur. On est reconnu aux îles pour être accueillant, pour apprécier la visite. Ben là, on dirait que les gens qui sont accueillants d'habitude, il y a quand même une grogne qui se passe. Fait que, sans que ce soit nécessairement la redevance en soi, ce qui est en train de se passer sur les médias sociaux, ben c'est sûr qu'il y en a à l'extérieur qui en entendent parler. Du côté des articles, malheureusement, j'ai pas lu là, l'article de ce matin. Cependant, il y a eu aussi d'autres articles précédemment sur la redevance qui, eux, étaient positifs. Donc, je pense qu'il y a un balan à avoir là, dans tout ça.
Alors justement, si on regarde sinon, on parlait de levier de développement du secteur que la passe archipel peut devenir. Est-ce que ça se traduit autrement que par le fonds de gestion durable du territoire? Est-ce que c'est vraiment qu'à travers cette mesure-là qu'elle aura un impact, Monsieur Lavilliquette?
Moi? Écoutez, des infrastructures et des services de qualité, c'est une des composantes d'une recette gagnante en matière de destination touristique, là. Je veux dire, à un moment donné, nous, ça fait des années, depuis avant que j'arrive finalement, je suis là depuis un an, mais on a des demandes de visiteurs et de citoyens qui nous disent faudrait aller passer des collectes plus souvent, faudrait améliorer tel ou tel secteur, faudrait rajouter des toilettes publiques à tel endroit, faudrait... Écoutez, les demandes augmentent. Les dépenses augmentent aussi par la force des choses. Le coût du maintien de ces infrastructures-là augmente tout seul. Donc, le simple fait de monter, on n'a pas les revenus. L'augmentation de nos revenus ne suit pas l'augmentation des dépenses pour maintenir ce qu'on a actuellement et on nous demande d'en faire plus. Donc, il y a un besoin, une nécessité de diversifier les revenus pour y arriver, pour rendre ce service-là à nos citoyens et rendre ce service-là à notre industrie touristique parce que veut pas. On a des visiteurs qui viennent. Si tout ce qu'ils disent en partant, c'est les infrastructures sont pas à point, pas capable de me rendre sur la plage pratiquement parce que le chemin est tout plein de trous, ou il n'y a pas de stationnement, ou telle autre affaire, ben écoutez, là, à un moment donné, c'est la réputation de la destination qui va en partir et donc l'industrie au grand complet, là. Donc, il faut contrer ça. Il faut absolument faire ces investissements-là, passer à un autre niveau d'investissement. Et on veut absolument le faire sans alourdir le fardeau fiscal de nos citoyens.
Et dans cette mesure-là, pourquoi est-ce que ça n'avait pas été considéré comme une mesure de... Est-ce que ça a été considéré une mesure de contribution volontaire plutôt, M. Valiquette?
Parce que c'est une redevance réglementaire, donc on n'a pas le choix de par la loi de passer par règlement. Donc un règlement municipal, ça vient avec des critères, des contraintes, ça vient avec des pénalités si on ne le respecte pas. Il faut être capable de le faire appliquer. Il faut que ce soit, faut que ça respecte un paquet de critères réglementaires. Et ça, on a fait toute la liste, 4 fois plutôt qu'une, avec des avocats experts en droit municipal pour s'assurer que notre règlement soit conforme aux exigences légales et réglementaires dans le cas d'une redevance comme celle-là.
Donc, autrement dit, ça n'aurait pas été possible de relever ce fardeau légal si on avait été dans une contribution volontaire, ça n'aurait pas fonctionné.
Ça aurait été complètement autre chose. Là, ça aurait été une initiative. On parle pas de la même ampleur, puis on parle d'aucune espèce de stabilité en matière de prévision de revenus. Puis c'est pas quelque chose qu'on aurait pu placer en tant que règlement. Là.
Alors, je vous remercie. On prend une autre courte pause et au retour, on passe au troisième bloc où nous discuterons de l'application de la passe archipel pour mieux comprendre comment ça va s'appliquer, comment ça va fonctionner. Et c'est là qu'on va aussi parler des inquiétudes liées à son application.
Afin de bien préserver notre environnement et notre milieu insulaire, le Rassemblement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des îles rappelle à tous les homardiers qui mettent leur casier à homard à tremper de s'assurer d'avoir récupéré tous les équipements, vieux casiers, bouteilles d'eau ou autres objets sur les lieux occupés par ceux-ci. Merci pour votre habituelle collaboration. In order to protect our environment, the Rassemblement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des îles would like to remind all lobster fishermen that are soaking their lobster traps to make sure they gathered all their equipment, old traps, water bottles, and other objects from their spot before leaving. Thank you for your precious collaboration.
SoFilm Cinéma Parallèle modifie son horaire de projection et vous présente ce jeudi à 19h et ce dimanche à 14h à l'auditorium du Château Madelineau le drame policier québécois La Fonte des Glaces de François Péloquin avec Christine Beaulieu, Lothaire Bluteau et Marc Bellan. Billets en quantité limitée en vente à l'avance sur le pointdevente.com avec le mot-clé SoFilm. Bon cinéma!
Mmh.
Alors, vous êtes toujours à cette émission spéciale de l'épreuve des faits où nous vous présentons une table ronde sur la passe archipel. Dans ce troisième bloc, nous discuterons de l'application de la passe archipel afin de mieux comprendre comment ça changera le fait de voyager pour les touristes, les travailleurs, les visiteurs, les résidents et la diaspora madelinienne. Mais aussi, on va faire le tour des inquiétudes liées à ce contrôle de circulation sur le territoire. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Mme France Groux, présidente de l'Association touristique régionale, de M. Michel Bonato, le directeur. Nous sommes également en compagnie via Internet du maire de la municipalité des Îles, Antonin Valiquette, et du professeur Dominique Lapointe. Alors, la première question, Raphaël?
Oui, il y a des éléments, il y a des enjeux en fait légaux qui ont été soulevés un peu partout sur les médias sociaux. Est-ce que ça tient la route d'un point de vue juridique? La municipalité, vous avez affirmé plusieurs fois que vous avez des avis juridiques sur cette question-là, que vous avez fait vos devoirs. Qu'est-ce qu'ils disent, les avis juridiques, concrètement? Et est-ce qu'il y a une possibilité même de les rendre accessibles à la population, ces avis juridiques-là?
Ben, je ne rendrai pas les avis publics juridiques. Les avis juridiques publics, ça, c'est certain. Là. Ce sont les avis juridiques, les municipalités ne sont pas tenues de rendre ça public. Puis là, quand on me dit qu'il va y avoir des recours et jusqu'à la Cour suprême, ben écoutez, je n'irai pas donner tout cuit dans le bec à des gens qui veulent absolument s'attaquer à un règlement qui, je vous l'assure, correspond tout à fait à tous les critères qu'on a pu trouver ou qu'on a pu imaginer au niveau de la réglementation puis de la légalité. Là, je veux dire, on l'a construit avec des avocats, ce règlement-là, parce qu'il est nouveau. On n'a pas de modèle sur lequel se fier pour le bâtir. Donc, on l'a bâti nous-mêmes, mais on s'est assuré de le faire comme il faut. Là. Donc, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs lois qu'il fallait considérer, notamment, particulièrement, la loi sur les cités et villes, la loi sur certaines compétences municipales, et, ben oui, écoutez, la charte des droits et libertés, puis là, je le dis pas d'une façon désinvolte, là, c'est très important, la charte des droits et libertés, mais on est persuadé que ça répond tout à fait et que ça passe le test de l'article 6 au niveau du droit de se déplacer, d'établir résidence au Canada.
Avez-vous eu des discussions avec d'autres paliers de gouvernement avant d'aller de l'avant? Est-ce que vous avez, par exemple, disons, confirmé votre compréhension de la loi avec le gouvernement du Québec?
Écoutez, il y a eu certains échanges avec le ministère des Affaires municipales, je pense, au tout début, mais après ça, nous, on a envoyé notre règlement, une fois tout fait, comme c'est supposé, là, on a envoyé une copie de notre règlement au ministère des Affaires municipales après son adoption du 9 avril dernier. Pas eu de retour du mamache depuis ce temps-là, non.
Sur la question, peut-être, là, allons peut-être sur le code QR qui a fait beaucoup jaser quand même. Quelles vont être les informations? La fois, comment ça va fonctionner, là, la plateforme de paiement? Quelles informations on va devoir donner? Et le code QR qui va être transmis lui-même, il va contenir quelles informations? Finalement, est-ce que c'est une preuve de facturation? Est-ce que c'est un genre de preuve d'identité? C'est quoi le code QR? Quelles informations on va devoir donner? Puis quelles informations vont être recueillies de l'autre côté?
OK. Ben, premièrement, j'aimerais mentionner à ceux et celles qui se posent des questions sur le fonctionnement de la passe archipel. Je les invite fortement à aller sur le site de la municipalité. Il y a une foire aux questions là qui répond à plusieurs questions qui ont été soulevées au cours des deux dernières semaines.
Maintenant, pas à celles que je vous pose, par contre.
Ben, c'est ça. ne vous inquiétez pas, on redonnera le lien de la municipalité pour le site de la passe archipel à la fin de l'émission. Mais justement, bon. Qu'est-ce que ça répond à ça? Qu'est-ce que contient le code QR?
C'est la même chose que de s'acheter un billet pour un spectacle au Vieux-Treuil. On s'en va sur une billetterie en ligne, on paye un billet, on reçoit une confirmation de paiement qui est un code QR aussi, qui est scanné à la salle de spectacle. C'est la même chose. Le code QR, tout ce qu'il contient comme information, c'est payé ou pas payé. Il n'y a aucun nom, adresse, carte de crédit, date de naissance. Il n'y a aucune espèce d'information personnelle sur le code QR. On voudrait qu'on pourrait pas. La plateforme de paiement, elle est sécurisée. La même façon que si vous achetez un billet d'avion, un billet de bateau, vous l'achetez en ligne, ça vous envoie une confirmation avec un code QR, c'est la même chose. Ça, on n'a rien inventé dans cette méthode-là. C'est une méthode qui est facile. Ça marche de même pour des événements, pour des festivals. Monsieur Lapointe et du côté de tourisme et de la Madeleine aussi pourront sûrement confirmer que c'est une méthode de paiement et de transaction qui se fait partout. Et il n'y a pas plus de risque, il n'y a aucun risque là, pour de se faire voler l'identité en scannant un code QR. Tout ce qu'il y a d'informations dans ce code-là, c'est est-ce que ça a été payé ou pas payé. Puis la très bonne raison pourquoi il n'y a pas d'informations personnelles sur un code QR, il est transférable. Vous, François Delisle, vous pouvez acheter la passe archipel de Laurence Damioul ou de Michel Bonato, si vous voulez, puis l'envoyer par courriel. Fait qu'il y a pas de, il est pas identifiable, il est transférable.
Là. Jusqu'à ce qu'il soit utilisé.
Exact.
Et sur la plateforme de paiement, M. Valiquette, c'est quoi les informations qu'on va devoir donner? Je crois qu'il y a des gens qui se questionnent beaucoup à cet effet-là, là, mais tu sais, la plateforme, elle va être faite comment? Là? Ça va être quoi le formulaire, là, finalement?
Est-ce que finalement, c'est simplement entrer nos informations de facturation ou ça inclut davantage?
Écoutez, là, j'ai pas le détail technique là. Moi, je suis le maire des îles là. Je veux dire, nous, on a légiféré puis on a été sur le côté beaucoup plus politique et sur le côté opérationnel. Mais l'exemple qu'on nous a donné, c'est une plateforme de paiement de la même façon. Encore là, je vais faire le même parallèle. Lorsque vous allez acheter un billet de spectacle. Sur la billetterie électronique du Vieux-Treuil ou si vous voulez sur n'importe quelle billetterie électronique, ce sont les mêmes types de renseignements. Là,
très bien, c'est ça. On nous demande des informations nécessaires à la transaction, finalement.
Puis les informations restent sur la plateforme sécurisée. Là. Elles ne sont pas véhiculées par code QR. Là.
Très bien. Monsieur Bonato ou Monsieur Lapointe, là, on parle aussi de l'impact sur les visiteurs qui sont, par exemple, il y a bien des gens qui s'inquiètent de l'application à des visiteurs qui seraient d'origine des îles, mais ne demeurant plus aux îles. Pouvez-vous nous rappeler, qu'est-ce que vous pensez que ça aura comme impact sur la circulation aux îles, le fait qu'elle s'applique à toute personne non résidente des îles qui vient de l'extérieur. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait décourager la fréquentation touristique de certains, d'après vous?
Bien, c'est sûr que c'est somme toute un changement. Hein? Puis dès qu'il y a un changement, certains vont être plus inconfortables avec ce type de changement, cette nouvelle arrivée. Est-ce que ça aura un grand changement? Est-ce que les Madelinos de souche ne voudront pas revenir aux îles pour ça? Je ne croirais pas. Est-ce qu'ils vont être contents de la payer à 100%? Peut-être pas. Mais c'est quelque chose de nouveau qui s'instaure. Donc, assurément somme toute un bon défi, je dirais, là, du côté de la municipalité, du côté opérationnel, avec les gens qui sont habitués là, de venir et de profiter des infrastructures récréotouristiques ou encore des autres, là, sans les avoir payés dans les années passées.
Oui, si vous permettez... là-dessus, parce que ça, effectivement, on y a bel et bien pensé, là. C'était une de nos préoccupations beaucoup au niveau de la table du conseil. Les Madelinos d'origine qui habitent sur le continent, écoutez, au niveau réglementaire, là, juste dans l'application de ça, de penser à mettre une exemption de la redevance pour les Madelinos d'origine. C'est carrément pas faisable. Imaginez tous les cas de figure que ça pourrait entraîner. Moi, j'ai déjà habité aux îles. Je suis né là, mais je suis parti. Mais mon père vient de là. Écoutez, ça se pouvait pas là, d'appliquer ça. Là. Quand je vous dis qu'il faut y aller par règlement, il faut que le règlement soit le plus clair possible et le plus applicable possible, ben là, on est là-dedans. Là. Une mesure comme celle-là, une exemption comme celle-là,
très bien.
C'était pas faisable et ça n'aurait pas été équitable non plus.
Puisque le but est que ce soit les résidents payeurs de taxes, par exemple, eux ne la paient pas, alors que les étrangers, ceux qui ne vivent plus aux îles, mais qui sont d'origine, ne sont pas nécessairement payants. D'accord.
Ben, imaginez, les touristes payent la redevance, les citoyens résidents payent avec leur compte de taxe, et il y aurait seulement que les Madelinos d'origine qui restent sur le continent qui ne contribuaient pas. Il y a une notion d'équité là que malheureusement qui était à respecter aussi là.
Merci.
Monsieur Valiquette, concrètement, comment ça va se passer sur le quai et à l'aéroport? Là, il y a eu des offres d'emploi du côté municipal, donc ça semble être des constables spéciaux ou une forme d'agent là de sécurité donc qui va vérifier le paiement de la passe archipel. Mais donc comment concrètement là ça va être vérifié la passe archipel sur les quais et à l'aéroport?
Ben là, c'est ça. Ça c'est le bout où est-ce que je parlais de la pâte à crêpes là, puis que la première, faut construire faut avancer au fur et à mesure, puis construire notre règlement au fur et à mesure, parce que on n'a pas d'exemple sur lequel se baser. On pouvait pas ouvrir de poste avant d'avoir adopté le règlement. Donc déjà, on est à ce moment-là. Donc là, on va voir. Qu'est-ce qu'on va combler comme poste? Il faut engager un mandataire. Mais... Puis après ça, de se faire une formule, justement, d'approche.
Très
et
bien.
Une formule de réaction par rapport aux gens qui veulent ou non payer.
Monsieur Valiquette, je vois que vous êtes prêt à vous adapter, mais concrètement, comment ça va débuter? Sur le quai et à l'aéroport, là. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a des gens, mon père vient, comment ça va se passer quand il va venir, concrètement?
Bon, ben écoutez, il va avoir il va avoir un agent de vérification qui va être sur place, va pouvoir demander à quelqu'un si on est visiteur ou résident des îles de la Madeleine. Est-ce que, dépendamment de la réponse, est-ce que vous avez eu la chance de prendre votre passe archipel? Non, ben il va pouvoir faire payer la passe archipel. On n'est pas tout de suite en immédiat. Non, je n'ai pas pris la passe archipel et je suis maintenant sur le quai de Cap-au-Mal. Ben non.
On n'est pas nécessairement dans la sanction tout de suite. On offre la possibilité de payer. Donc, il va y avoir des gens pour contrôler, offrir la possibilité de payer aux gens qui ne l'auraient pas acquitté. Ou sinon, les Madelinos s'identifier pour montrer avec une preuve de résidence. Raphaël?
Est-ce que les résidents des îles qui refuseraient de donner une preuve de résidence, là, mettons, je veux pas montrer mon permis de conduire, là, est-ce qu'on s'expose à une amende de 1 000 dans ce cas de figure-là? Comment on va gérer ce genre de situation-là où l'agent de quai est peut-être capable de dire « Cette personne-là, je sais qu'elle habite à trois chemins d'ici, mais elle veut pas montrer son permis de conduire. » Comment est-ce qu'on gère ça?
Ben, écoutez, il faut, légalement, il faut qu'on mette, il faut qu'on fasse la distinction entre résident et non-résident. Donc là, c'est la présentation d'une pièce, d'une preuve d'adresse, en fait. Mais dans les faits, je veux dire, l'année 1 surtout, on va quand même être souple. Puis notre idée, notre intention, c'est pas de prendre des gens en défaut à ce moment-là. Par contre, il y a un règlement, on se doit de le suivre. Et oui, je pense que Dominique qui voulait...
Oui, monsieur Lapointe.
Oui, bien, je peux comprendre la sensibilité, là, mais moi, quand je suis allé faire ma carte de bibliothèque, on m'a demandé une preuve de résidence, là. Puis la bibliothèque de mon village n'est pas assez grosse, fait que quand je suis allé me faire une carte de bibliothèque pour avoir accès à des vrais services de bibliothèque dans la moyenne ville la plus près de chez moi, on m'a demandé de m'identifier, puis j'ai payé un tarif parce que je suis non-résident. Ça reste que sur l'usage des services publics, ce type de d'identification-là, ça existe pour toutes sortes de choses, hein, la piscine, la...
Oui,
c'est
ça.
C'est sûr qu'on a l'idée que l'utilisation de la voie publique, des espaces communs, des haltes routières, des toilettes publiques, tout ça, c'est gratuit. Mais
en fait, c'est ça.
Des toilettes payantes en Europe, il y en a partout, là. Mm-hmm. Parce que ça peut être ça aussi, là. T'sais. Qu'est-ce qui serait mieux pour la destination de mettre des toilettes publiques payantes partout, puis qu'il n'y ait pas de passe? Il y a un instant, tu sais,
Ben, c'est ça, là, Dominique.
Mais ça, il faut le regarder, là. T'sais.
Monsieur Lapointe a raison, là, parce que ça, effectivement, on a pensé, puis ce que je peux vous dire, c'est que le conseil, on est tout à fait opposé à l'idée de commencer à faire de la perception sur les plages pour les toilettes publiques. Puis ça nous ramène à la notion de parc régional quand on nous dit que va falloir faire payer pour aller aux fraises ou pour aller aux éplans. C'est justement pour ça. L'idée, c'est qu'on est insulaire, on a deux points de sortie, il y a une application, il y a une faisabilité de demander la pièce d'identité pour les services publics de la passe archipel à ce moment-là plutôt que de mettre des stationnements payants, d'avoir des guérites puis des surveillances à tous les stationnements puis les accès de plage des îles de la Madeleine, où ça, c'est impensable, c'est infaisable de toutes les façons. Par contre, on a des gens qui vont lier la demande d'identification au droit de sortir de la municipalité. Mais c'est pas ça, là. Pensez, c'est une identification pour...
C'est une mesure de perception.
À payer quelque chose. Je vais vous poser une question, monsieur Delisle.
Oui.
Mettons que le gouvernement fédéral dirait tout d'un coup, savez-vous quoi, les insulaires de l'île du Prince-Édouard puis des îles de la Madeleine, vous avez raison, c'est votre seul lien routier. On va dire que vous n'avez pas à payer le pont de la Confédération pour sortir de chez vous sur preuve de résidence. Montreriez-vous votre permis de conduire ou bien vous préfériez payer le 50$ de frais?
Non, c'est une. Je ne répondrai pas directement à cette question pour être certain de ne pas tomber dans une comparaison que je ne maîtrise pas. Par contre, moi, j'avais une question par rapport justement à cette notion de perception. Est-ce que ça va être mesuré par la TR, par exemple, avec votre sondage de fin d'expérience touristique? J'ignore son nom exact, j'en suis désolé. Est-ce que vous allez poser des questions sur l'expérience que ça représente, cette perception, cette mesure de la passe archipel aux îles?
Écoutez, le sondage de fin de séjour, il a une partie de où les gens peuvent développer. Donc, il y a des questions, mais aussi des boîtes où on peut développer. Puis, c'est tout le temps très, très, très instructif, un peu les commentaires qui sortent un peu de la question. Donc, pour répondre à votre question, oui, les gens vont pouvoir dire ce qu'ils en pensent. Puis, nous allons le compiler. Puis, généralement, nous faisons le point, vous savez, à notre journée du tourisme à l'automne. puis comme nous l'avons toujours fait. Donc il y avait des questions qui étaient, il y avait des visiteurs qui étaient préoccupés par certains points comme l'accès aux plages, il y avait le trafic. Donc on revient avec cette question en toute transparence et celle-là, ça va revenir et donc on aura le plaisir de vous le présenter.
Merci beaucoup. Raphaël, tu avais une autre question?
Oui, c'était sur justement cette question-là de la première crêpe qui ne sera pas parfaite, là, comme M. Valiquette vous l'avait dit il y a quelques semaines déjà. Lorsqu'on parle de possibilité de s'ajuster en cours de route là, ou après l'année 1, là, concrètement, sur quoi on va réfléchir? Est-ce que tout est sur la table pour s'ajuster? Est-ce que, par exemple, les gens qui viennent pour faire de la prochaine danse ou qui viennent... est-ce qu'il y a de l'ouverture à revoir les modalités de la passe archipel? Sur quoi on est prêt à finalement discuter là, après l'année 1?
Brièvement, M. Valiquette.
Ouais, tout à fait. On est tout à fait prêt à discuter pour des cas comme celui que vous avez mentionné là. C'est l'année 1. On vérifie où est-ce que ça accroche. À la fin de l'été, on fait un constat, on fait un bilan, puis on apporte des correctifs pour améliorer la situation. Ça, c'est clair.
Très bien. Alors, une courte pause et un dernier bloc sur le sujet de la passe archipel. Yo.
Avis de convocation. Le Rassemblement des pêcheurs et pêcheuses des Côtes des Îles invite ses membres à son Assemblée générale annuelle qui se tiendra le jeudi 25 avril à 18h30 au gymnase du Centre Jo-le-Bourdet situé au 330 Chemin Principal à Cap-aux-Meules. Cette rencontre sera l'occasion de vous présenter les états financiers de l'organisation et de vous faire part des différentes activités qui se sont déroulées en 2023 et les projets en recherche scientifique à venir au RPPCI. Nous vous attendons donc en grand nombre. Bienvenue à tous les membres. Notice of Meeting. The Rassemblement des pêcheurs et pêcheuses des Côtes des Îles invites its members to its annual general meeting that will be held on Thursday, April 25th at 6:30 p.m. at the Jo-le-Bourdet Center's Gymnasium located at 330 Chemin Principal in Cap-aux-Meules. The purpose of this meeting is to present the organization's financial statements and to tell you about various projects that took place in 2023 and the scientific research coming up at the RPPCI. We hope to see many of you there. Welcome to all our members.
Alors, vous êtes toujours à l'écoute de cette édition spéciale de l'épreuve des faits où nous vous parlons de la passe archipel qui entre en vigueur le 1er mai prochain. Dans ce dernier bloc, nous revenons sur les inquiétudes et les commentaires que les auditeurs nous ont fait parvenir et on essaie d'approfondir certaines questions qui auraient pu être traitées au cours de la table ronde. Raphaël, je te lance avec des questions des auditeurs.
Oui, quel est le plan, donc, à long terme, selon vous, de cette passe archipel là, pour les individus et jusqu'où les différentes mesures de contrôle pourraient aller là, pour l'opération du parc régional? On l'a soulevé un peu, là, mais donc, la vision municipale pour le parc régional, notamment sur la question de la tarification, elle nous emmène où si on se projette dans le temps?
Un parc régional, dans le fond, c'est un outil qui existe ailleurs, dans bien d'autres municipalités. C'est l'idée de ça, c'est de concilier les usages du territoire d'État public et de préserver nos milieux naturels. Dans l'État public, il y a plusieurs secteurs naturels, des milieux humides, des endroits de conservation, et il y a aussi plusieurs endroits où vous faites des usages. Ça fait depuis 2015 que la municipalité consulte à peu près tous les groupes d'utilisateurs de terre publique que vous pouvez imaginer. On a été consultés des cueilleurs de petits fruits là, dans le cadre de la consultation. Il n'y a pas d'association de cueilleurs de petits fruits aux îles de la Madeleine. Là. Je ne sais pas si vous imaginez le défi logistique. Là. Mais l'idée d'un parc régional, dans le fond, c'est de dire, bon, ben tel endroit, puis tel endroit, bon, ben des usages non compatibles, ben, écoutez, chacun de son bord.
C'est puis, ça, on parle des usages non compatibles, par exemple, la chasse en même temps que la saison de kite. On parle, par exemple, de cueillette avec le stationnement de VR, etc. Mais concrètement, au niveau de la tarification, est-ce que des gens vont devoir, quel genre de tarification on prévoit pour avoir accès au parc régional? Est-ce qu'on parle de tarification pour des VR? Il n'y en a pas? Bon.
On prévoit aucune espèce de tarification pour accéder au parc régional. Dans le plan d'aménagement et de gestion du parc régional, on voit des revenus autonomes et normalement, il faut avoir des revenus autonomes pour un parc régional. Il n'y a pas de programme pour financer ça, surtout pas au fonctionnement. Mais là, comment on fait pour générer des revenus? Mais il y a des entreprises qui peuvent se développer en territoire, en terre publique. On parlait de kitesurf, vous pouvez avoir un endroit de mise à l'eau, des installations de mise à l'eau de kitesurf qu'une entreprise pourrait faire payer, une entreprise qui va payer les taxes, etc., comme n'importe où ailleurs sur le territoire.
Très bien.
On dit donc qu'on prend un secteur des terres publiques pour faire du camping de plage ou de dunes, par exemple, géré par l'OBNL qui gère le parc régional. Ben là, est-ce qu'il y aura un frais, par exemple, pour le camping? C'est possible aussi, mais d'aucune espèce de façon, on va commencer à charger le monde pour aller se promener aux Chanterelles ou bien pour aller se baigner à Pointe-aux-Loups. Là.
Très bien, M. Valiquette. Autre question, Raphaël?
Pourquoi avoir mis la limite là, aux 24 heures? Donc, toute personne qui passera plus de 24 heures aux îles devra la quitter. Puis ça, concrètement, comment on va vérifier la question du 24 heures? Si moi, je vous dis, j'étais là pas plus que 24 heures sur le quai, là, comment on contre-vérifie ça?
Ben, vous allez avoir une carte d'embarquement de la veille de l'aéroport. C'est vous qui dites que vous êtes là depuis 24 heures. Ben, démontrez-le. Vous avez une carte d'embarquement de votre vol pour lequel vous êtes arrivé la veille. Montrez-nous ça. Puis il n'y a aucun espèce de problème. Même affaire pour un billet de bateau.
Et pourquoi on a tranché à 24 heures?
Le 24 heures, dans le fond, c'est que on était sur la notion de est-ce qu'on met vraiment une pression sur les infrastructures publiques et sur la gestion des matières résiduelles de nos sites récréotouristiques et est-ce qu'on est là vraiment sur les terres publiques pour justifier une participation directe à la création d'un parc régional. Là, encore là, la question du 24 heures pourra être revue. Mais notamment, c'est qu'on avait on a aussi les croisières internationales, donc ça exclut par cette mesure-là. On s'entend, cette mesure-là est surtout là pour exclure non seulement les croisiéristes, mais vous pouvez avoir d'autres cas de figure où est-ce que vous faites un aller-retour en dedans d'une journée. Ben là, charger 30$ pour une base archipel pour une journée, où est-ce que là, on peut raisonnablement croire que vous n'avez pas exercé une grosse pression sur le territoire? Là, c'était dans un souci d'équité pour ça là, qu'on a mis ça en place.
Très bien. Rappelez-moi d'ailleurs, M. Bonato, brièvement, la durée moyenne d'un séjour touristique aux îles?
Actuellement, on a la durée de séjour la plus longue au Québec, c'est-à-dire que les personnes restent en moyenne 10,5 nuitées. Donc, par exemple, dans les autres destinations les plus longues, on est à 2 à 3 nuitées. Donc, ce qui fait en sorte que cette longueur du séjour...